Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, notre Seigneur Jésus-Christ, après être remonté aux cieux, siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Saint Thomas, en commentant cette vérité de foi, en profite pour rappeler et surtout pour expliquer ce qu'est la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais diviser ce sermon en deux parties. Première partie, les titres de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième partie, l'étendue de la royauté. Cette vérité de foi qui est dans le credo a été rappelée par Pie XI dans une encyclique qui enseigne solennellement la royauté de Jésus-Christ et qui institue la fête du Christ roi. Tout d'abord, pourquoi et à quel titre Jésus règne-t-il? Il règne comme Dieu. Jésus est Dieu. Il est le Dieu fait homme, donc il est Dieu. Et il siège à la droite du Père parce qu'il règne avec lui. Saint Thomas nous dit, siéger à la droite du Père, c'est posséder, comme le Père, la gloire de la divinité, la béatitude, le pouvoir judiciaire, et cela d'une manière immuable et royale. Autrement dit, vous avez deux aspects. Tout d'abord, notre Seigneur siège, c'est-à-dire qu'il est établi parfaitement de façon immuable dans la béatitude de Dieu. Et deuxièmement, il siège parce qu'il possède non seulement la béatitude et non seulement la gloire de la divinité, mais également le pouvoir royal et judiciaire qu'il possède à égalité avec Dieu le Père, hein, et avec le Saint-Esprit. Il est évident que si c'est comme Dieu que Jésus-Christ siège à la droite de Dieu le Père, il partage ce pouvoir à égalité avec Dieu le Père et avec le Saint-Esprit. Alors pourquoi dit-on à la droite? C'est une image, parce que Dieu n'a ni droite ni gauche puisqu'il n'a pas de corps. Par conséquent, c'est une comparaison avec la droite du roi qui est la place d'honneur. C'est la gloire et l'honneur de la divinité, dit saint Thomas. Et Jésus-Christ est juge, roi et juge. Nous allons voir que le roi, c'est celui qui légifère, qui gouverne et qui juge. Il légifère par sa sagesse. La sagesse de Dieu pénètre toutes choses, enfin toutes les choses sauf l'esprit des pécheurs qui refuse, mais et malgré tout, là encore, elle s'imposera, hein, malgré les pécheurs. La sagesse de Dieu est ce qui fait toutes choses. Et cette sagesse avait été bafouée par le péché, elle est restaurée par notre Seigneur Jésus-Christ. Cette sagesse, c'est ce qui définit la loi et c'est ce qui définit le jugement. Deuxièmement, Jésus-Christ règne comme homme. Il est roi par sa dignité de chef et par la plénitude de sa grâce habituelle. Nous avons vu ça, mes bien chers frères. Le Christ est chef de l'Église. Sa grâce, la grâce qui sanctifie son humanité, qui découle de la divinité pour sanctifier son humanité, rejaillit parce qu'elle est surabondante. Elle rejaillit sur tous les hommes et nous avons vu que l'humanité du Christ est la cause instrumentale, c'est-à-dire l'instrument dont se sert la divinité, justement pour que la grâce rejaillisse sur tous les hommes. Et en raison de ce caractère de chef, il est le premier de tous les hommes, notre Seigneur a un nouveau titre à la royauté. Il reçoit le jugement pour trois raisons, parce que L'Écriture sainte dit, l'Évangile dit, qu'il reçoit le jugement de Dieu le Père. Or, nous avons vu que Dieu le Père juge et que Jésus-Christ juge en étant Dieu, parce qu'il est Dieu. Alors, comment peut-on dire qu'il reçoit le jugement ? Dieu le Père délègue à Dieu le Fils le jugement parce que Dieu le Fils s'est fait homme. Il demande à Dieu le Fils de juger non pas seulement avec sa divinité, mais là encore, en se servant de son humanité comme d'un instrument. Et cela pour trois raisons. À cause de sa communauté, de son affinité avec les autres hommes, dit saint Thomas. Dieu agit par l'intermédiaire des causes secondes, c'est-à-dire des causes qui ne sont pas lui, Dieu, qu'il a créées, parce qu'elles sont plus proches des effets qu'il produit. Ainsi juge-t-il les hommes par le Christ homme, afin que son jugement leur soit plus indulgent. Et saint Paul aux Hébreux dit « Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos infirmités. Au contraire, pour nous ressembler, il les a toutes éprouvées, ses infirmités, sauf le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de sa grâce. » La deuxième raison pour laquelle Jésus juge en tant qu'homme, au jugement dernier, lors de la résurrection des morts, Dieu ressuscite les corps par le Fils de l'homme, comme il ressuscite les âmes par le même Christ qui est le Fils de Dieu. Et troisièmement, saint Augustin nous dit « Il est juste que ceux qui doivent être jugés voient leur juge. Or ceux qui doivent être jugés, ce sont à la fois les bons et les méchants. Il faut donc que dans le jugement, la forme humaine de Jésus-Christ soit montrée aux méchants comme aux bons, et que la forme de Dieu soit réservée aux seuls bons. » Et le troisième titre de Jésus-Christ à régner, ce sont ses mérites. Selon la justice de Dieu, celui-là devait être établi juge qui avait lutté et vaincu pour la justice de Dieu et qui avait été jugé injustement. Il était jugé injustement, il est temps qu'il rétablisse le jugement. Ainsi dit-il lui-même dans l'Apocalypse, « J'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. » Donc, saint Thomas, et Pie XI bien sûr, parce que c'est la même doctrine, nous rappelle Jésus-Christ est roi parce qu'il est Dieu en tant qu'homme et par les mérites de sa vie sur terre. Voyons maintenant quelle est l'étendue de sa royauté. On pourrait dire que c'est une étendue universelle, mais ça ne va pas dire grand-chose, il faut quand même expliquer les choses. C'est le gouvernement divin. Dieu gouverne, il gouverne les hommes. Alors, nous avons beaucoup d'idées fausses sur le Christ roi, parce que nous ne savons plus ce qu'est un roi, nous ne savons plus ce qu'est une société. Les modernistes affirment que la royauté de Jésus-Christ est purement spirituelle et qu'elle s'exercera à la fin du monde lorsqu'il reviendra dans la gloire. Eh bien non, Pie XI affirme que la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ s'exerce aujourd'hui sur les choses humaines, sur les choses de la terre et sur les nations. C'est-à-dire que les nations doivent être chrétiennes. Quel est le but du gouvernement divin ? Pourquoi Jésus règne-t-il ? Comment règne-t-il ? Qu'est-ce qu'un roi ? Ça va être intéressant cela parce que tous ceux qui gouvernent, gouvernent au nom de Jésus-Christ. Au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et notamment dans l'Église. Donc, si nous ne savons pas ce qu'est un roi, si nous ne savons pas quelle est la royauté de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas savoir ce que Dieu attend du pape, nous ne pouvons pas savoir ce qu'il attend d'un évêque, nous ne pouvons pas savoir ce qu'il attend d'un père de famille, nous ne pouvons pas savoir ce qu'il attend d'un roi de la terre, etc. Et voici l'enseignement de saint Thomas. Dieu crée et donc il gouverne l'homme à son image. Premièrement, en lui donnant un être bon. Il le fait bon. Deuxièmement, il lui communique la capacité de connaître sa fin. C'est-à-dire que l'homme sait où il va, contrairement aux animaux, qui ne savent pas où ils vont. Troisièmement, il gouverne l'homme en lui donnant de se diriger lui-même, l'homme, vers cette fin qu'il connaît. Et quatrièmement, il donne à l'homme, il le gouverne en lui donnant la capacité lui-même de transmettre le bien qu'il a reçu, et donc d'être cause de la bonté en d'autres êtres. Et c'est cela qui est très difficile. C'est difficile comme la création, comme l'étude de la liberté, à savoir que Dieu gouverne non pas en nous supplantant. On considère très souvent aujourd'hui qu'un chef, c'est celui qui a le droit de supplanter son inférieur, de prendre sa place, de lui dire « tu ne sais pas, je décide à ta place ». Mais ce n'est pas ça un chef. Parce que si l'inférieur ne sait pas, c'est qu'on a affaire à un inférieur de piètre valeur, et un bon chef fait au contraire des inférieurs de grande valeur. Plus le chef est grand, plus ses inférieurs ont été grandis par lui. Et Jésus-Christ nous grandit. Et donc, Jésus-Christ agit, il règne avec Dieu le Père, il participe au gouvernement de Dieu le Père. Et son humanité est un instrument pour ce gouvernement. Comment fait-il ? Eh bien, il transmet ce qui est bon, il transmet un être bon, il transmet la grâce qui nous élève, la grâce qui nous perfectionne. Et cette grâce va être à la racine de notre foi, qui nous permet de connaître notre fin, mais pas seulement la fin naturelle, pas seulement la fin philosophique, la fin divine, la fin du ciel, la béatitude. Nous connaissons la Sainte Trinité que nous sommes appelés à rejoindre, avec laquelle nous vivons déjà, puisque nous sommes les temples de Dieu. Nous vivons en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Enseignement de l'Écriture sainte. Et Jésus-Christ nous gouverne, il siège à la droite de Dieu, non pas pour nous écraser de sa puissance, non pas pour nous supplanter, il siège à la droite de Dieu pour nous donner de nous diriger nous-mêmes vers lui. C'est ce qu'il a fait par la croix. Il a restauré notre capacité à l'aimer. Il a restauré notre capacité à le comprendre comme il fallait. Il a restauré notre capacité à nous diriger vers lui. Il a restauré notre capacité à pratiquer la vertu. Voilà la grande œuvre. Et notre Seigneur a fait cela, il l'a mérité par sa passion, mais il faut que cela continue. Nous avons discuté l'an dernier avec un prêtre, nous étions à une réunion, et un prêtre est très présent, et le père Marcel dit à ce prêtre, il lui parle justement du gouvernement divin, de Dieu qui... Et le prêtre lui dit, mais non, Dieu lance les choses... Et après ça, on ne s'en occupe plus. C'est nous qui sommes totalement libres. Un peu comme on lance une boule, et puis après ça, la boule roule où elle veut. Mais non. Non. Pensez qu'un prêtre, c'est un prêtre moderne, pensez qu'un prêtre estime que nous n'avons plus de lien direct dans l'exercice de notre liberté, dans l'exercice de notre amour, dans l'exercice de nos vertus, dans le gouvernement de notre vie, que nous n'avons plus de lien direct avec Dieu qui nourrit continuellement notre action, c'est grave. C'est très grave. Ça veut dire qu'il n'y a plus de vie chrétienne. Il n'y a plus de spiritualité chrétienne. Il n'y a plus de véritable union à Dieu. C'est la religion de l'homme. Et saint Thomas nous dit, il y a par conséquent 3 degrés de gouvernement. Le gouvernement sur les êtres qui ne connaissent pas leur fin, sur les animaux. Il y a le gouvernement sur ceux qui ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres parce qu'ils n'en ont pas la capacité, parce que pour différentes raisons. Mais attention, qu'ils ne sont pas complètement libres, ils sont quand même toujours un peu libres. Et puis le gouvernement le plus parfait sur les hommes libres. Et ça c'est très important, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais c'est très important. Si nous voulons étudier le gouvernement humain idéal, si nous voulons savoir ce qu'est un roi, si nous voulons savoir ce qu'est un pape, si nous voulons savoir ce qu'est un père de famille, ce qu'est un chef d'entreprise, que sais-je encore, il faut bien nous rappeler que le gouvernement humain doit imiter le gouvernement divin et que le meilleur gouvernement, c'est celui qui ne supplante pas ses inférieurs, mais qui, à l'image de Jésus-Christ, nourrit les inférieurs. Nourrit leur charité, nourrit leur foi, nourrit leur connaissance, nourrit leur autonomie, nourrit leur liberté. Oui, nourrit leur liberté. Un père de famille forme la liberté des enfants. Il les éduque à la liberté. Attention, il ne donne pas la liberté d'un seul coup. On ne peut pas la donner d'un seul coup. Mais on les éduque à la liberté. L'idéal, c'est que les enfants n'aient plus besoin du père de famille. Parce qu'ils sont autonomes. Le Christ gouverne-t-il les choses temporelles? Oui, bien sûr, directement par la providence. Il fait beau, il fait chaud, que sais-je? Est-ce qui dépend de choses qui ne sont pas libres, dont nous n'avons pas la maîtrise? Et puis, je viens de vous le dire, il gouverne par les causes secondes, il communique aux hommes la capacité de limiter en gouvernant les autres, c'est-à-dire qu'il communique aux hommes la capacité à rendre les autres bons, à ce qu'ils connaissent leur fin, à ce qu'ils se dirigent d'eux-mêmes vers leur fin, et à ce qu'ils rayonnent à leur tour. Et donc, tous les hommes, et je voudrais insister sur un point, sur l'importance de notre intelligence. Parce que saint Thomas dit que Jésus-Christ juge principalement par sa sagesse. Et pour juger, il faut la capacité à s'imposer. Là, je parle du juge qui rend un jugement. Il faut la recherche de la justice et non pas son intérêt propre. Et il faut essentiellement la sagesse. Et lorsque saint Thomas dit la sagesse, c'est pas rien la sagesse. Il n'a pas dit la science. Et il dit la sagesse. C'est-à-dire qu'il voit les choses de haut. Qui ramène les choses à Dieu. Or, cette sagesse, tout homme la connaît par son intelligence. Cette sagesse de Dieu qui a été mise dans la loi naturelle, cette loi est inscrite au cœur de l'homme. Tout homme connaît la loi naturelle par son intelligence. Il la connaît plus ou moins, il la connaît plus ou moins bien, plus ou moins profondément, mais tout homme la connaît. Et cela veut dire que l'homme qui a compris ce qu'est la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, a compris qu'il est un ministre de Dieu, a compris qu'il est un collaborateur, même si c'est à un niveau infime, un collaborateur de la providence divine, un collaborateur de Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ envoie ses apôtres, et il n'envoie pas que ses apôtres dans le monde. Tout homme qui connaît le Christ, qui fait usage de son intelligence, participe à la sagesse du Christ, comprend tout ce que je viens de vous expliquer avec saint Thomas, tout ce que saint Thomas vous a expliqué depuis des mois et des mois que nous faisons ces sermons sur notre Seigneur. Toutes ces choses-là vous ont donné une sagesse de Dieu. Elles vous ont fait comprendre le mystère divin, le mystère de Dieu. Elles vous ont fait entrer dans le mystère. Elles vous ont élevé au-dessus des choses qui passent, au-dessus des choses temporelles, au-dessus des choses mouvantes d'ici-bas. Vous avez pris de la hauteur. Et en prenant de la hauteur, si vous n'acceptiez pas d'en tirer les conclusions et de dire « Je sais, je participe à l'autorité divine », celui qui dit le contraire n'a pas compris. Si vous refusiez de participer à l'autorité divine, à la sagesse divine, eh bien, ce serait une déchéance, ce serait même une trahison. Et il n'y a pas que Mgr Lefebvre qui pouvait rappeler au pape son devoir. Mgr Lefebvre dit « Un enfant de 4 ans qui connaît son catéchisme est capable de dire à un évêque lorsque celui-ci est hérétique, par exemple lorsqu'il affirme que notre Seigneur n'est pas dans l'hostie, dans la Sainte Hostie. » Parce que l'enfant, par son intelligence, par sa foi, participe au règne de Jésus-Christ. Et plus que cela, il participe d'une certaine manière au pouvoir judiciaire de Jésus-Christ, d'une manière très infime, mais au jour du jugement, notre Seigneur mettra face à face l'enfant et l'évêque, Elle dira à l'évêque, cet enfant connaissait la vérité, et toi tu l'as refusé. Eh oui. Donc le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, et le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est cela. Parce que tout ce que je viens de vous dire, je vous ai exprimé ce qu'est une société, comment vit une société. Je n'ai pas besoin pour vous dire ce qu'est une société, je n'ai pas besoin de vous parler de la Constitution, je n'ai pas besoin de vous parler du roi et des organes, je n'ai pas besoin de vous parler de tout cela. Je vous parle de cette fidélité au gouvernement divin. Bien sûr, si je dois vous faire un sermon sur l'organisation de la politique, de la société, si je dois vous faire un exposé sur la politique, j'entrerai dans les détails d'organisation de la société, mais là, tout ce que je vous ai dit avec cette sagesse de Dieu dont nous sommes les participants est déjà lumineux pour vous et pour vous montrer ce que vous avez à faire dans la société aujourd'hui. Et quiconque fait ça, même s'il ne connaît pas les règles de la politique, fait nécessairement de la bonne politique, c'est-à-dire qu'il restaure le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, le royaume de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ règne, il a un royaume. Ce royaume, c'est nos âmes, c'est nos cœurs, c'est nos intelligences, c'est nos actions, c'est nos mains, c'est nos vies, c'est tout ce que nous faisons, c'est également tout ce que nous gagnons. C'est nos enfants, c'est nos familles. Presque plus personne n'y croit. Et nous avons eu cette grâce d'avoir été réservés pour croire à ces choses-là, et je termine avec l'enseignement de Saint-Pierre, notre Seigneur est une pierre d'achoppement, mais vous, vous êtes un peuple choisi, élu, un peuple royal, un peuple de prêtres, une race royale, sainte et choisie. Et c'est vous qui rendrez témoignage de la sagesse de Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.